Vous écoutez France Culture. Hors champ.
Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous. Hors-champ, dernière émission de cette série exceptionnelle consacrée à Pierre Guyotat. Pierre Guyotat a souhaité terminer cette série d'émissions par une lecture qu'il a faite l'été dernier au Festival d'Avignon. Cette lecture est extraite de son dernier livre publié, intitulé « Arrière-fond » chez Gallimard. « Arrière-fond » est la suite de « Formation » publiée en 2007. Qui était non pas le récit de la vie d'un petit enfant, mais bel et bien un exercice d'écriture à partir de, comme le dit Pierre Guyotat lui-même dans la préface d'Arrière-fond, à partir de la concentration de ses forces de mémoire, d'empathie et de poésie sur la 15e année de mon âge. Arrière-fond est donc le récit où Pierre Guyotat a 15 ans, le récit d'un voyage en Angleterre, un été dans le nord de l'Angleterre, il écrit de la poésie. Saoul, l'histoire biblique de ce berger choisi par Dieu pour devenir le roi d'Israël, un berger qui se rebelle et tombe dans la dépression. C'est le premier voyage pour Pierre Guyotat hors de la famille, un premier amour pour une adolescente, Annick, le texte et le retour à bord du ferry. Nous écoutons cette lecture, enregistrée par le Festival d'Avignon, l'été dernier, par Pierre Guyotat.
Depuis ma tête projetée en avant du bastingage, au-dessus de l'écume pour me forcer à vomir, je vois la fleur de gardénia à l'oreille de la femme grande, de peau brun rose aux cheveux noirs brillants, appuyant dos à la mer ses hauts reins à la balustrade de l'escalier. Et dans les secousses de ma tête, la trépidation du ferry et le remugle de la mer, je sens la fleur, son parfum du monde adulte, d'au-delà la pénétration. De mes deux mains derrière mes oreilles, je presse contre le pavillon les embouts de mes lunettes imitation d'amour pour les garantir de la chute. Nous sommes sur le bord droit du ferry. Le soleil rouge touche déjà l'horizon dégagé en pleine mer. Le peu que je vomis libérant ma gorge et sa main depuis son corps retourné vers la mer, touchant mes épaules au travers de ma veste de drap bleu marine et mes jambes se raffermissant dans mes golfes, je peux lui parler, même de ma langue encombrée de vomissures. Voyage-t-elle seule d'Amérique en Angleterre et d'Angleterre en France? Est-elle la chanteuse de ces musiciens noirs qui, par les coursives et les marches, remontent des cabines avec leurs instruments? Sa main, de quelle main ancienne à lien, à fer, à chêne et à coton, faufilée sous ma veste et sous ma chemise, masse la tache de ma nuque à mon épaule gauche. La fleur de gardénia est de l'autre côté de sa tête sur l'oreille droite, et le vent trop fort en disperse le remugle vers l'arrière. Mais c'est maintenant sa peau que je sens, celle de son poignet, de son bras derrière ma nuque, de son coude ou d'un peu de sueur que le vent humide y entretient. J'attends l'odeur, pour plus tard la consistance sous mes doigts, puis ma langue, de celle de ses aisselles. Dois-je encore me forcer à vomir pour que la main, une vraie main enfin, continue de me masser le cou, les doigts se dépliant jusque sous ma mâchoire gauche et peut-être jusque la commissure gauche de mes lèvres avec leurs longs ongles violets? Dans ce remugle et ce remuement de mer, comme il serait plus aisé que sur terre que ma main droite remonte sur la sienne gauche, sur son poignet, sur son bras, enveloppe son coude et le garde. Mais si dans ce mouvement, cette caresse, ma bouche se rapproche de la sienne, Comment d'ici là on nettoyait le palais? De l'eau? Mais mon sac à mes pieds, y prendre la bouteille et y boire? Et la femme aura dénoué de mon cou sa main, son bras. De la parole pour rejeter les sanies de vomissement, y faire beaucoup de salive et la cracher. Mais une nausée plus forte me faire vomir, et je crains que le vent tournant ne rejette la vomissure sur elle, sur moi. La main de la femme demeure sur mon cou secoué. Vais-je devoir vomir toute la nuit? Mais que pourrais-je vomir d'autre que le dernier ragoût que j'ai mangé hier soir chez mes amis, devant Mr. Proudlock qui fait tourner son petit poids contre son index et son vieux pouce? Quel organe, quelle muqueuse se détacherait le plus vite de mon corps intérieur, qu'alors j'imagine comme une chambre aux machines pour y être dégurgité sans retour? Dormir cette nuit? Mais le vomissement pourrait-il m'y surprendre dans un sommeil au rêve d'ingurgitation et m'étouffer à mort? Me garder réveillé et, par l'immobilité du corps et de l'esprit, veiller sur mon corps intérieur, réduire la force des sentiments, la mémoire de mon double, maintenant privé de sa mère, et de celle de notre dernière colère, mon père et moi, dans la redescente en jeep d'un raccourci d'affleurement de roc qui secoue le véhicule et notre affrontement, de celle de la boule d'orgie que la main de la douanière à New Haven n'a pu atteindre au fond du sac élargi par le disque 33 tours d'un récital Schubert par Elisabeth Schwarzkopf et Edwin Fischer, que sais-je alors d'elle, inscrite au parti nazi, lutinée, ou plus, par Hans Frank Bourreau de la Pologne et dégradant sa voix dans le spasme hitlérien, que le disquaire à l'entrée de la cité m'a glissé dans un étui de coffret avec les 2,70 tours de Boogie Woogie que je rapporte pour les petites soirées de nos sœurs. Mais comment ralentir mon cœur, dont par-dessous la palpitation du vomissement, je peux entendre dans mes oreilles bouchées le battement en avant du poing de la femme qui maintenant frotte mon dos de bas en haut, une femme que je ne connais pas, de passage, belle, qui n'est pas une infirmière de bord, dans une traversée internationale, touche ma peau habillée, masse les os et les muscles de mon épaule, de mon dos, et les connaît maintenant. Que le vomissement cesse, que je puisse parler, l'écume ravivant le sang dans ma tête, qui cédait à l'évanouissement, n'est-ce pas plutôt que de la nourriture, la matière retenue de l'écrit d'arrière-fond, interrompu depuis un mois que je rejette, non formée, ou plus encore, celle que j'endure de pouvoir créer et tracer aux côtés de mon membre érigé à mon retour dans ma chambre en France, cette main brune, ce noble corps, en tailleur un peu cintré, du visage je n'ai vu qu'un peu de rouge au bord gauche de la lèvre inférieure et le profil de l'œil un peu bleuté, issu de corps autrefois asservis. Comment pourrais-je les transformer en mains, en corps des servisseuses dans mon local et main mécanique d'arrière-fond? C'est de corps blancs, de ceux qui dominent encore le monde que j'ai besoin, garçons, filles, femmes, ouvriers même, pour asservir, pour désirer, pour écrire au plus secret. Mais ce point qui parcourt mon échine affaiblie par la nausée, y cherche-t-il les marques qui impriment dans la courbe de la colonne l'acte d'excitation d'écriture et d'éjaculation? Pour elle, que serait-ce? Pour moi, c'est un fardeau sur lequel j'étends mon dos à chaque fois. Mais si c'est vers cet écrit que je dois aller une fois l'écrit licite, épuisé, corps, esprit et âme, je dois lui garder toute sa force d'exception, de mystère et de faute. Aucun corps noir n'y entrera jamais, de ceux créés par Dieu à son image et pour son usage, que leurs maîtres chrétiens ont osé acheter et vendre et marchander, séparant les enfants des mères et les mères des pères pour l'usage du sucre, du coton. Dans le bruit des turbines, de l'écume, des mouettes et des passagers se préparant pour la nuit, j'entends depuis ma tête pendante le début d'une petite fanfare assourdie, trompette, trombone. Et si, suivant de l'oreille et de l'esprit le développement de la musique, je pouvais y oublier la vie de mon cœur? Joueront-ils toute la nuit? Chantera-t-elle? Si par l'odeur du gardénia, par le poing de cette passagère, J'entre sans lien de sang ni d'habitié dans le monde adulte avec mes 15 ans d'âge, franchement déposé aux pieds d'une qui en fait le double. Y perdrai-je de quoi, images et mots, avancer de plus en plus profond dans ce qui n'a pas de terme et qu'il faut pour cela garder caché. Que le sexe, désir, pénétration, plaisir, est un acte de conquête, de maîtrise et d'écrasement de l'autre. Et ce n'est pas le ricanement du pervers et les sanglots de la victime qui résonnent dans mon arrière-fond, c'est le silence de l'hébétude et l'éclat de gouaille de l'enfant du peuple, filles et garçons, dans l'arrière-cour de la cité ouvrière, relevant ses désirants assouvis comme il relevait les poubelles avec son père. Quel visage vais-je, une fois le vomissement épuisé, remonter du vide écumeux vers son regard qui brillera de l'œil gauche à l'œil droit vers la fleur de gardénia ou le couchant mais du rose. Grands cheveux déjà gras d'une nuit d'autrin, lunettes et bouche souillées, menton encore incertain, n'a-t-elle pas sur elle ou dans un sac à main de quoi, mouchoir, eau de toilette, compresse, me le nettoyer et en raviver le brunissement? Ne va-t-elle pas m'emmener, moi, sous elle, dans un balancement, une ivresse, dont le remue de la fleur de gardénia est un signe, plus fort encore que le remuement marin et la nausée? Combien de force, combien de temps me faudra-t-il pour me placer au-dessus d'elle? Et où? Ici, pas de cabine particulière avec ses linges et ses bois lustrés, le plancher du pont balayé d'eau de mer, de quoi reprendrai-je l'avantage? Laisser aller mon corps comme s'il était nu, et déjà plus avancé que la tête sur laquelle bute la colère de mon père, faire confiance aux femmes toutes qui depuis ma petite enfance disent mon charme, laisser se former à la source qui est dans la poitrine et sortir de la gorge la parole pure, celle que même en Angleterre, sous le couvert de la langue et des maladresses que j'y fais, j'ai dû contraindre depuis que j'écris de la poésie ouverte. Ma parole courante a changé et avec la mue. Mais les cris d'arrière-fond, je le sens, qui l'attire vers sa liberté, sa gouaille et sa luxure. Et sous la parole domestique, familiale, que souvent mon bégaiement encombre de ses claquements de langue, ce verbe surgit avec l'odeur de la boule d'orgie, dont quelques éclats de ma voix, s'agissant de corps ou de sensations d'envie et de plaisir. Et si écrire de la poésie et d'y tenir rythmes et rimes ne me remplit d'aucune certitude supérieure, je sais maintenant que, sauf ma mère, le babil familial est au-dessous de ce que la culture, ici revendiquée comme une supériorité et une responsabilité sociale, devrait y mettre. C'est sur fond visuel et sonore de ma poésie en cours que j'entends la parole domestique des autres, et c'est dans l'obscurité et le son de mon arrière-fond que malgré moi je m'entends, moi, parler, répondre tant bien que mal à mon père, dialoguer avec ma mère. Mais en prévision des 3 nuits de train, de ferry, de mon retour en France, j'ai beaucoup nagé les derniers jours et aussi de nuit, en regardant beaucoup le corps et le visage d'Annick au-dessus de l'eau miroitante ou noire, beaucoup le matin, avant le départ à midi pour Belford, ne me restait-il pas un peu de sable et d'algues dans les plis, les poils, les trous de la seule partie de mon corps que je connaisse, celle d'où je tire la substance de mon avenir, celle du sexe. Le reste, carrure, cambrure, démarche, épaisseur et galbe des membres, cou, je ne le vois pas. Tout ce qui ne transforme pas les sensations en pensées, en futur, à quoi bon chercher à le voir dans la glace? Et même dans l'arrière-fond, ce sont les plis du vêtement, du haillon vers le sexe, des éclats du regard qui surgissent de la pénombre. Une fesse, une cuisse, un ventre, un torse, ce serait trop peu. Il faut que les mots en deviennent peu à peu voluptueux à mon oreille et sous mes doigts qui tracent les cris secrets. Me touchant l'échine, peut-elle comprendre que c'est d'elle que mon cœur bat plus fort, non de la nausée? Et si je remontais ma tête et la retournais vers elle, sans souci de ce qui reste de vomissure sur mes lèvres ou dans mes joues? Une femme ne peut aider un garçon à vomir et lui caresser l'échine comme à un homme, sans achever ses soins par un baiser, Mais si au lieu qu'elle embrasse ma nuque ou ma joue, ma tête gardée vers la mer, je retourne cette tête vers elle, c'est d'un autre baiser qu'elle comprendra que je veuille, au plus près de la bouche au moins. Et que ne sait-elle pas, elle, le double de mon âge, américaine, noire, chanteuse peut-être, dans un groupe d'hommes musiciens en tournée, que d'expérience dans les paquebots internationaux, des enfants déjà, des maris, jeunes ou déjà mûrs, l'alcool, la déraison, la discrimination, une enfance misérable ou pauvre, que d'enfants bas âge, les siens ou ceux d'autres, dont elle reprend bouche à bouche dans sa main l'excès de petite nourriture mâchée et recrachée, que d'hommes de son père à ses maris, dont elle baise les lèvres sur une bouche saturée d'alcool et de vomissures, amants, clients peut-être, qu'il faut faire boire et dont il faut essuyer la bouche, sa bouche par le chant, habituée à y regurgiter salive, morve, sang quelquefois, nourriture mal descendue. Qu'est-ce pour elle qu'une bouche de 15 ans, encombrée de rejets de pique-nique et d'où le sang s'est un peu retiré dans la nausée, si elle ne voit dans mes yeux ternis par les verres un peu embués, que déjà dans le tremblement de la résurrection et le bercement de la mer, je commence un alexandrin d'un répit de mon Saül dans sa lutte avec son Dieu, où il se repose enfin dans la confiance. Et d'où lui vient cet apaisement amoureux? D'une sorcière qu'il sort de visiter dans son affractuosité de désert, parfumée, d'une servante qui, de sa contrée native lointaine, apporte des onguents nouveaux et les lui applique sur son corps raidi par la dépression, une princesse d'un peuple limitrophe, exterminé, dont il sent sous son doigt bagué de roi, bouger le ventre, œuvré par son membre et sa semence, toutes de teint brun, comme elle, de l'autre peuple de la Bible, le peuple noir capturé, déporté, asservi d'Amérique et se délivrant par le chant, par le psaume. Ce qui me reste de déchets dans ma bouche, n'est-ce pas ceux de la colère, de sa colère, de son amertume, leur acidité qui s'y éteint, par-dessus l'émotion de la voir, elle de face maintenant, celle de l'alexandrin dont les premiers mots sont trouvés et dont le reste est encore dans ma main qui le rythme au plus près de ma fesse, une suite fantôme, mais fantôme sûr. Ne va-t-elle pas d'un seul regard foudroyer cette petite ligne musicale, ou voit-elle que dans mon oreille et ma main j'hésite encore entre la sorcière et la princesse, que sitôt passé l'alexandrin de l'abandon au bonheur retrouvé, les vers qui suivent dépendent de ce choix que je dois faire devant elle, presque ses yeux dans les miens et nos bouches de très peu séparées. Mais cet abandon du premier vers, c'est la harpe, le discontinu, la corde pincée qui entraîne la majesté du bonheur retrouvé. Et si, cédant à la musique qui nous vient du groupe reformé, à son prélude mélancolique, étale et continue, de trompettes, de trombones mêlées, c'est à nouveau la folie en larmes, puis le raidissement, essai des trois femmes à la servante d'entrer avec ses baumes et ses formules. Ne devais-je pas alors, quittant le pont, trouver dans la profondeur balancée un recoin pour écrire à la lampe de poche la strophe de la servante naïve, mais experte? Mais j'ai devant moi, qui me suis retourné dos à la mer, une femme dont le couchant presque accompli fait briller les yeux fixés sur les miens qui ne s'abaissent pas. Nous faut-il donc aller plus loin? Mais mon émotion suffit-elle, celle d'émouvoir une femme qui connaît par son poing mon échine, donc mon ossature, ma capacité d'élan, d'endurance, de droiture. D'autres garçons vomissent au bastingage. M'a-t-elle vu dans le transfert des passagers du train vers les ferries à New Haven, de face, de profil? M'a-t-elle entendu parler à la douanière ou à quelques Français du lot, rire de tous ces jeunes dos courbés, convulsifs, poitrines en croissance contre le bastingage? C'est le mien qu'elle a choisi de frotter, le plus faible peut-être, mais qui se régresse sous son poing. Dans l'autoportrait que j'ai dessiné et colorié avant de partir, le seul depuis que je dessine et peins. Je sais que, dans la rêverie, mes lèvres sont charnues parce qu'ils se retroussent sur de la parole que j'y fais, ou de l'étonnement ou de rejet devant et de ce que j'y vois. Si elle regarde mes yeux, c'est qu'ils lui plaisent, malgré les verres. Si je retrousse et avance un peu mes lèvres, c'est que je désire qu'elle retrousse et avance aussi les siennes. Faire comme dans la rêverie, laisser les traits et les organes du visage, les mains même, agir sans retenue. Mais il me faut plus que cette émotion. Ne faut-il pas que le membre aussi s'en mêle ? La nausée et le vomissement l'ont relégué parmi les organes inutiles, muets, absents. D'un mouvement qu'elle fait pour retourner le haut de son corps vers les musiciens qui l'appellent, la veste de son tailleur déboutonnée et tirée, je vois sur le pan marron et vers le haut de la manche de son corsage rose sans manche, l'ouverture de son aisselle, quelques poils très noirs dont le bout, lui, du couchant, de la sueur, du chant qui remonte en elle, plus que de sa cambrure. C'est de cela qu'il faut que mon membre rebouge, de cette anfractuosité chargée d'odeur, de saveur, de consistance, de ce bâillement une fois l'aisselle toute ouverte qui préfigure celui de la nature. Mais oser penser ce membre à cette aisselle, n'est-ce pas répéter le désir et le regard connaisseur de l'acheteur de plantation ou de bordel, profaner à nouveau ce dont même son créateur n'oserait disposer? Mais le même créateur ne crée-t-il pas aussi ceux qui le profanent? Le membre peut-il bouger, surtout se redresser d'un élan vers l'âme de l'autre, vers sa pensée, vers son passé? Ne durcit-il que de la seule chair, chair vers chair, âme vers âme? Ou bien est-ce de ce qui lie les deux la condition sociale? Que mon membre est affamé, comme pour la faire disparaître dans son avalement. Il veut de l'asservissement, de ses images, de ses représentations vivantes, pour les manger dans son durcissement et les digérer dans sa substance. Et si la fille ne suffit pas, il asservira et mangera le garçon. Mais sous les selles brille la bride blanche du soutien-gorge tendu, du sein au dos et tenant au bonnet par un bouton pression. La tension de la bride suggère un sein ferme et toujours en éveil, toujours frais, quoique ayant beaucoup servi. Cicatrice peut-être, je sens mes joues rougir d'un organe que je ne vois pas, mais sur lequel, nourrisson, mes yeux se sont ouverts. Comment le même organe peut-il à la fois, dans l'endettement semi-public du seuil de la maison, du parc municipal, du compartiment de train, attendrir et rassuré sur le sort de l'espèce humaine, et déployé sous une bouche fardée, réveillé, ramassé dans un seul élan toutes les sanies du voyeur. Entre les deux, c'est aussi l'organe de la beauté que la fille ou la femme qui les porte cache de ses mains, parce qu'il faut cacher la beauté. Sauf mes tétons qui me brûlent, je ne me sens plus habillé. De quoi suis-je vêtu en bas? Une, deux épaisseurs, rien, à peine mes pieds, d'où le sang se retirerait tout à l'heure dans mes souliers de marche. Dans quoi mon membre s'éveille-t-il pour durcir, grossir, s'épanouir? Comment cacher qu'il me faut regurgiter beaucoup de salive? Derrière ma main, qui tremble elle aussi comme tout mon corps, le membre monte dans le tremblement. À elle de m'apaiser sans apaiser le membre. Au-dessous de nous, les nuages dorés ont noirci, du tonnerre du côté de la côte anglaise disparue. Est-ce d'elle seule ou de toutes les femmes réunies en elle que mon membre demeure raide comme bloqué sur son maximum? Est-ce donc de cela que l'homme pénètre la femme, de cela que les animaux mâles font de même? Plus encore que le cerveau et le cœur, c'est l'homme qui crée ce membre, c'est à lui, à ses sens, à son esprit, à sa douleur, de former, à partir de petits amas de glandes et d'appendices que lui consent la nature, et des fluides et des nerfs qui le précèdent, ce vrai membre. Et ce membre, elle est, du moins nulle part, il n'est peint, sculpté, coulé, adoré même, comme image de la beauté. Si les testicules sont en art, soignés, agrémentés de poils, le membre épanoui n'y figure pas. C'est qu'il est dans l'organe de la femme. Et le sperme non plus qu'il est aussi. Mais dans l'accouplement qu'on n'y voit jamais, le sperme peut déborder ou autre. Le sang, qui est la vie créée, y coule partout avec sa couleur franche. Le sperme qui est la vie à venir, avant son usage social, sa couleur et sa consistance sont éphémères. Et ce qui dans l'homme crée ce vrai membre, l'homme, petit créateur de ce membre maudit, n'en a qu'à peine le contrôle, alors que pour la poésie, je dois, sur le support du désir d'en faire, équilibrer, harmoniser toutes mes autres facultés, esprit, mémoire, savoir, cœur, état du corps, futur immédiat, sentiments simultanés, sécurisation du corps qui va écrire. Ici, c'est un oubli de presque tout que je dois en quelques secondes communiquer à tout mon être pour devenir un autre qui se forme ou qui prend forme autour de la zone sexuelle ou même qui n'y prend pas forme. Ce n'est plus un être qu'il faut, c'est du non-être pour que le membre puisse agir librement. Je lève les yeux vers le ciel, noir sous noir. Je me cache toujours pour dessiner ou peindre la nuit, pour la dessiner à l'encre ou au crayon très noir. C'est quelquefois juste avant d'entrer dans l'acte nocturne. Mais quel que soit le lieu ou le moment où je la peins ou la dessine, c'est une forme de la prostitution qui y apparaît dans le paysage noirci, sauf en croissant de lune, une fenêtre ou un réverbère. Une forme de la prostitution, d'abord en blanc, puis colorié de rouge aux lèvres, de rouge et de noir au sac à main, de rouge aux tétons de la poitrine abondante et gardée blanche, de rouge et de vert aux souliers à talons hauts, puis de noir, plus noir que la nuit, à la robe courte et à la longue chevelure. Puis il faut noircir le visage, noircir les bras, noircir les jambes, d'un noir qui les distingue de l'obscurité. Entre ce noir qui s'épaissit dans l'avancée vers la France et ce pont balancé qui surplombe cette fosse lumineuse des cabines où déjà dorment sous couverture les plus jeunes enfants, quelques adolescents vomissant encore au bastingage, des hommes et des femmes retenant leurs chapeaux et fumant de longues cigarettes dans de longues conversations le long du bastingage de première classe plus haut, cette femme que je retiens de mes yeux et qui peut-être voit de moi ce que je n'y ressens plus, me délivrera-t-elle de ne vivre toujours qu'en avant de moi, qui souvent, enfant dans la course, me retournait pour voir ma dépouille derrière moi. Ainsi maintenant, l'œil fixé sur la bride blanche du soutien-gorge, au-dessous de la touffe, encore brillante de l'aisselle, quel remous, quel éclair, quel éclat de trompette ou clochette du dîner de première classe, pourrait interrompre ce présent qui est ma mort et me rendre au futur qui est ma vie. Descendre, descendre vers ce recoin obscur d'au-dessus de la cale au véhicule pour y faire avancer ma poésie ou y redessiner au noir une nuit où seule une bride blanche sous une touffe plus noire que la nuit reste non coloriée. Je veux ce retrait malgré la nausée que j'y attends, le bégaiement qui me prendra dans la recherche de steward à steward du recoin le plus calme, j'y descendrai. D'une mer plus grosse, le ferry tangue et roule, juste une petite inflexion dans la musique du trombone, elle-même habituée à chanter sur des surfaces flottantes ou roulantes, souvent secouées, répond à l'appel par un fragment de mélodie où sa respiration ne faillit pas. Le fracas couvre le prénom que les musiciens lui lancent, mais je peux saisir qu'il s'achève par un A. Serait-ce Stella, des étoiles. C'est sur la fin de ce fragment que sa bouche se pose sur ma joue. Mais n'ai-je pas moi-même avancé ma bouche vers son visage qui se retourne avec sa fin de mélodie? Aurait-elle dévié ma bouche pour n'embrasser que ma joue? Mais c'est de sa bouche qu'elle aurait dévié la mienne, la touchant du fil de ses lèvres. Que ne l'y ai-je retenu? N'a-t-elle pas aussi pris ma hanche dans sa main, puisque dans mon corps qui m'est disparu à moi-même, je sens cette hanche à nouveau, comme je ressens à nouveau ma joue, mais cette bouche, comment la retenir sur ma joue? J'avance ma joue, je la pousse contre cette bouche, mais ma monture se prend dans son orbite. Je la recule et me recule tout entier dans l'odeur de la fleur de gardénia mortelle. Et j'approchais ma poitrine de la sienne, de la chaleur qu'elle exhale au travers du corsage, dont un éclair fait briller le blanc, comme il fait briller le blanc rose de ses yeux. A-t-elle voulu baiser ma bouche, et craignant que je n'en exalte, et me connaissant par mon échine que je m'en trouve mal, l'aurait-elle alors fait glisser sur ma joue, sur la bouche? Alors, c'est de l'amour, tout court, même de passage. Si elle n'a voulu que baiser ma joue, ce n'est que du soin maternel. Mais c'est d'une femme nouvelle, venue de loin et allant loin, et dont la maternité est ici recouverte par l'amour du champ et les nécessités de la tournée. Mais si j'ai besoin encore et toujours d'un amour de mère, et que je sais qu'il y en a dans toute femme amoureuse, c'est d'amour femme-homme que je rêve, de passion et de pacification. Déjà, elle marche vers les musiciens, et je vois de dos l'épanouissement de ses épaules et son déhanchement qui prend le rythme. Que faut-il que je garde plus d'elle, sa voix, ce déhanchement, ou les restes de sa bouche sur ma joue? Les écrire vite, mais dans quel ordre? En attendant, mettre ma main sur l'oreille, qui des deux en a entendu le plus d'elle. Sur mes yeux, pour le déhanchement, sur ma joue, pour le dépôt de sa bouche. Faut-il que je reste sur le pont à attendre qu'elle me revienne, ou faut-il, comme dans des romans dont les phrases me viennent alors et commencent d'y réduire l'écho de sa voix, que je détourne mon regard d'elle qui s'en va, peut-être vers un autre, des autres, et que je me précipite dans l'escalier avec mon amour impossible? Sur le pont qui tangue, je reprends mon sac et descends dans la cabine. Des enfants courent dans les travées ou recouverts plusieurs de la même couverture. Des adultes jouent aux cartes sur une couverture tirée sur leurs genoux. D'autres mangent, lisent journaux, livres. D'autres, seuls, le ballot entre les jambes, je vois leur gorge avalée de la salive. Angoisse de la terre nouvelle et d'un travail de force incertain. Des filles blondes en jupe des tissus écossais, surveillées par une nonne en coiffe, dont le crucifix couleur corail bat le scapulaire gris sur des seins dont l'aridité me sonne aux oreilles. Je descends plus bas, tout est plein, plus bas encore, tout est plein. Je m'adosse à une paroi au travers de laquelle j'entends vibrer les machines. C'est vers la chambre souterraine de Saül que je descends, vers ces parois de larmes et de crasse de son corps non lavé, de tant de jours. Pourquoi bouger ainsi, remuer mes organes de digestion dans cette descente aux trois quarts à contre-courant? Puisque de vomissement on ne meurt pas, trouver un lieu avec au sol une évacuation en direct sur la profondeur marine. Ouvrir mon cahier de poésie et ventre au sol, y continuer mon Saül, vomir, écrire. Mais alors, si le lieu ferme, y sortir la boule d'orgie, revêtir la défroque, ouvrir le feuillet non écrit depuis un mois, et dos au sol, main aux membres, y reprendre la scène qui me met de l'écume aux lèvres, écrire, branler, vomir. Où ai-je changé mes golfs pour le short? Une coursive faiblement éclairée, je la prends. Au fond, un amas de gros cordages, de grosses chaînes, où de la poussière tient à la graisse. J'en enjambe la masse la plus basse. Je peux encore avancer et regarder sans allumer la lampe que j'ai dans la poche de mon short. Une porte métallique claque au gros remous, à ma droite où je sens sous ma paume une grande courbure de tôle épaisse. Nouveau Jonas, je marche vers la porte, la prends, l'entrouvre, sous l'odeur de graisse, de peinture écaillée, de vomissure, de pisse et d'excréments, une odeur, celle oubliée, d'Annick sur le muret de l'église anglicane, au-dessus de la boucherie, avec son écoulement de sang. Est-ce d'être descendue de l'inaccessible, une vraie femme, que ma modeste petite amie de ce mois d'août me revient aux narines? De quoi les matelots, seuls habitants de cette profondeur, transporaient-ils sur eux un tel remugle saisonnier? J'entre, du peu de lumière, des lumignons grillagés de la coursive, je distingue un espace à ma taille, avec sur la paroi gauche une banquette de bois. À ma droite, une partie de l'espace plus bas de hauteur et de gros tuyaux de métal ou de caoutchouc venus du plus bas et montant vers le haut ou continuant à plat à droite vers le fond tout à fait obscur. Déjà ma poitrine s'exalte de cette banquette. Je vais pouvoir m'asseoir et écrire. Mais cette portière courbe qui claque ne pourrait-elle pas dans un remous se fermer sur moi? Et de quoi alors la rouvrir? Je regarde la fermeture, identique des deux côtés, un loquet sans verrou. Je sors ma lampe et réexamine la mécanique. Et s'il y avait dans cette mécanique une fermeture cachée qu'aucun faisceau de lampe ne peut déceler? Il me faut trouver une cale pour maintenir la portière entrouverte, ou bien, assis sur la banquette à écrire, pourrais-je de mon pied, au bout de ma jambe étirée, la maintenir entrebâillée? La porte étant ouverte sur le fond de la coursive, encombrée par les cordages et les chaînes, je ne peux être vu, mais je serai assis à contresens de la navigation, au risque d'une nausée plus rapide. Il me faut écrire très vite. Je sors mon cahier de poésie, l'ouvre sur mes genoux. Des trois femmes, c'est la princesse qui me vient en gorge. Une strophe d'elle qui promet à Saül un enfant pour asseoir sa dynastie et guérir sa folie du spectacle de leur fils posant, déjà dressé à un an d'âge, sur le tapis du petit palais d'Israël, que note découverte dans le sourire ses petites mains sur les barreaux de son petit lit doré. Aurais-je le temps d'écrire comment et en combien de temps Saül sort de sa mélancolie? Mes yeux s'habituent à l'obscurité et je vois mes mots progresser sur la page, de carreau à carreau. Dans les craquements, les grincements, les cliquetis et les crissements, j'entends un gémissement. Serait-ce dans des tuyaux de caoutchouc dans l'obscurité du fond où bougent les conduits? Je sors ma lampe de ma poche, éclaire depuis le sol cette profondeur qui me fait face, et je vois un pied nu, mais avec son soulier, de femme, à côté. Les orteils se recourbent comme ceux d'un enfant qui dort et rêve. Le pied étant face à moi, c'est que la jambe et le reste du corps le sont aussi. Comment les éclairer sans la réveiller? Le talon étant dressé droit face à moi, c'est qu'elle dort sur le dos. Mais si un seul talon est visible, c'est que l'autre jambe est repliée sur l'autre, ou genou levé. Par où dois-je l'éclairer? Le sol d'abord autour du pied. Mais si je rapproche le faisceau, la chaleur en touchera sa cheville. Avancer le faisceau parallèlement sans la toucher. À cette jambe dont, me levant et avançant, je commence à distinguer le beau genou bleuté, sans repli, plus avant la cuisse couchée, sans l'autre jambe dessus. Je recule et déplace le faisceau vers la gauche et je vois l'autre pied à hauteur du genou. C'est donc que la jambe y est levée. J'avance le faisceau sur le sol vers ce qui pourrait être le dessous de la cuisse levée. En avant de l'ourlet d'un short très court, d'où sortent des poils bruns et des plis mouillés, une compresse ensanglantée roule avec le roulis. Mon membre, mollement ému à la strophe de la princesse enceinte, s'épanouit, sa force subite me déséquilibre. Est-ce elle qui, avant de dormir, a ôté et rejeté ce tampon de ses menstrues pour rêver plus librement? Est-ce le pansement qui, dans un rêve plus brutal, secouant tout le corps, est sorti tout seul de sa nature et du short pour rouler sur le sol et y sécher en boule? Remonter le faisceau le long des plis, ce serait chauffer ce qu'il recèle, la nature, et peut-être réveiller la fille. Si je dirige le faisceau vers le haut, la lumière en sera diffusée vers ses yeux fermés. Comment éclairer le corps par en dessous? Je fais progresser la lumière, mais de plus loin, sur les plis, puis vers l'intérieur. Ce ne sont pas des boutons qui ferment le short, mais des pressions que le faisceau fait briller. Et le short est tout ouvert, et les pans à pression retournés. L'échancrure un peu déchirée laisse voir le haut de la nature. Son renflement pelu, un peu de sang colle des poils à la déchirure. De plus loin encore, j'éclaire le bas-ventre, le nombril haut dans le corps, l'évasement de la hanche droite, la levée de la cuisse gauche, la taille, un sein, et au-dessus, le retroussement sur la gorge d'une blouse légère, de couleur claire et sans manches. Vers la droite, une grande aisselle ouverte, une traînée de poils plus noirs au milieu. Les mains sont jointes sur la nuque. Le faisceau parcoté remonte derrière la tête inclinée sur l'épaule gauche et je distingue la chevelure noire retenue par un chignon sauvage et un profil régulier et charnu. La tombée de la tête sur le côté gauche dégage sur le côté droit du cou une belle artère, la confiance. Je redescends le faisceau sur la courbure des seins et le fais tourner autour des grandes aréoles roses autour des tétons rouges. Je fouille l'entour de la tête, le tréfonds sous les tuyaux qui crissent. Pas de sac ni de paquet. La bouche avance vers l'aisselle gauche. Les lèvres s'entrouvent, se referment, les cils battent, l'artère brille. De quoi si peu vêtu? Et pourquoi endormi ici? Est-ce de trop de chaleur que le short est ouvert et la blouse retroussée? Je regarde sa joue, fraîche, nette. Nulle trace de larmes. S'est-elle séparée de son groupe, égarée dans la profondeur et endormie dans l'attente du jour? Et dans cette retraite plus sûre que sa chambre de fille, de sœur, s'est-elle ainsi découverte, entr'ouverte? Mais de quoi s'est-elle séparée des autres? De ce qu'on lui ressasse qu'elle est la plus belle? Et où trouverait-elle de vrais hommes pour le lui prouver dans le corps et dans les intervalles de le travail de force? Ici, aux machines, a-t-elle dans son sac là-haut, elle aussi, une boule d'orgie? J'éteins ma lampe, m'accroupis et me couche sur le sol à sa gauche. Le sac à dos à droite de ma tête, j'ouvre ma chemise et retrousse les pans vers les aisselles. J'ouvre mon short, je défais la ceinture, déboutonne mon short sur le maillot de bain, en écarte les pans sur mes hanches. Du peu de lumière qui filtre de la coursive, la porte avec quoi caler, je vois sa nature respirer, les poils s'ouvrir et se refermer. Me redressant, j'avance ma main vers ses poils, mes doigts au-dessus du renflement pelu et de la déchirure ensanglantée. Toucher enfin une nature, peut-être doucement décoller le poil du tissu, enfoncer ma main et prendre toute la nature dans ma paume avant qu'elle ne déploie des fastes de boucherie. Est-ce d'elle ce par quoi elle tient au monde? Si je pose ma main dessus, elle s'en séparera et se réveillera, mais ma paume est au-dessus, sans toucher, mais toute la chaleur en remonte sur les lignes de ma main. Ainsi, enfin, je garde ma paume ouverte au-dessus de la nichée de serpent, toute veine étirée vers les gueules à crochets et venins dessous. Si je peux tenir mon sang dans cette chaleur grouillante, c'est que je peux en toucher nœuds et écailles. De combien de membres mâles futurs cette nature est-elle comble qu'il faudrait écraser du pied de la Vierge?
Merci au Festival d'Avignon et particulièrement à Sophie Pérez et à Hortense Archambault. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, Didier Lagarde, Anne-Vanessa Prévost, Catherine Parent, Brigitte Bouvier. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et de très bonnes fêtes. Tout à l'heure, donc à 23h30, du jour au lendemain, par Alain Weinstein. Après, ça sera la nouvelle année. Mais tout de suite, Thomas Baumgartner, Les passagers de la nuit.